Tout pour investir, les experts de l'IMO.
Nos experts de l'IMO, d'abord notre experte maison, Marie Cœur de Roy, journaliste immobilière chez BFM Business. Salut Marie.
Bonjour.
Victor Caro, cofondateur et CEO de Comet. Bonjour.
Bonjour.
Jean-Louis Delleroux, rédacteur en chef adjoint. Une voix qui porte, je veux dire, c'est le poids de cette rédaction, BFM Business, BFM.com d'ailleurs, le site web. Salut Jean-Louis.
Bonjour à tous.
On va parler des derniers chiffres des notaires et de la FNAIM sur l'évolution, Marie, des prix de vente et des volumes.
Oui, comme c'est de coutume hein, au démarrage de cette séquence du vendredi où on a un peu plus le temps de revenir sur toute l'actualité liée à l'immobilier et au logement. Jean-Louis, on va démarrer parce qu'on a eu pas mal de chiffres sur l'état du marché. On a eu le sentiment qu'avec ce qui s'est passé sur les taux d'intérêt depuis le mois de janvier, que ça allait un petit peu mieux. Bon...
Non, c'est pas la folie.
Voilà. On va relativiser un peu le mieux quand même. Hein.
Non, c'est pas la folie. Le chiffre pour moi le plus intéressant, c'est le nombre de transactions pour le coup. 835 000 transactions sur 12 mois en février dernier. Donc ça, c'est les derniers chiffres. On est à moins 31% depuis le pic historique qui était en août 2021. Donc ouais. Post-Covid avec un certain emballement. On était à un peu plus d'1,2 million. Voilà. Donc, et cette année, on devrait atterrir autour des 800 000. Donc,
ouais, c'est ce que dit la FNAIM, ouais, c'est ça.
Alors même si c'était une année exceptionnelle 2021, on est quand même en dessous des normes historiques. Hein. On doit être à peu près à moins 15, moins 20% des normes. Mais bon, les notaires constatent quand même que la baisse, elle est de moins en moins forte au fil des mois. Donc, on a peut-être atteint le fond de la piscine et ils s'attendent même à peut-être une reprise en fin d'année côté transaction. Alors côté prix, on est toujours dans la baisse, moins 5,5% fin mai pour l'ensemble de la France. Ça baisse un peu plus en Île-de-France toujours qu'en province, mais ça semble se rééquilibrer parce qu'en province, les prix ont commencé à baisser un petit peu après. On a envie de dire quand même qu'on est en train globalement de liquider les excès qu'il y a eu post-Covid où les prix c'était les gens l'ont un peu oublié mais ça s'emballait quand même de plus 7 plus 8% chaque année pendant 2 ans hein, donc c'était un peu la folie.
Mais... Victor Caro, comment est-ce que vous analysez vous cette situation? Est-ce que vous voyez le verre à moitié plein ou à moitié vide? Ça continue de dégringoler nous dit Jean-Louis mais on a peut-être touché le fond de la piscine.
Oui, alors moi ce que j'entends comme bruit de couloir c'est que pour le coup les courtiers qui sont peut-être en avance de phase sur ces tendances réalisent que depuis le début de l'année la volumétrie est en train de repartir à la hausse, donc il faudra voir si ça se concrétise ou pas.
Ouais,
c'est peut-être un signe encourageant.
Mais ouais, Victor, en fait, c'est un peu le sujet. Alors vous, votre spécialité, c'est quand même le bureau, mais on voulait démarrer sur le résidentiel quand même, parce qu'on a eu pas mal de data clés ces derniers jours. Mais justement, c'est ça en fait l'alpha et l'oméga aujourd'hui, et comme toujours du marché, c'est le crédit immobilier en réalité aujourd'hui.
Oui, ce qui est sûr, c'est que c'est ce qui permet, lorsqu'on voit que depuis un an et demi, finalement, le pouvoir d'achat des acheteurs a diminué, je crois, de l'ordre de 30% à peu près, à cause de cette hausse des taux, ce qui va avoir une vraie incidence, c'est à quel point est-ce que, avec cette potentielle baisse des taux, mais qui tarde à arriver, avec la baisse des prix des actifs et la hausse des salaires, à quel point est-ce qu'on va réussir à réenclencher une dynamique positive?
Pour l'instant, on a perdu, au début, on perdait des mètres carrés, après, on finissait par perdre des pièces, hein, une chambre en moins en termes de pouvoir d'achat immobilier. Où est-ce qu'on en est, Jean-Louis?
Eh ben, ça va un petit peu mieux depuis le début de l'année.
On a regagné quoi, l'équivalent d'un demi-couloir?
Mais tout dépend où tu vis, en fait.
Ça dépend, parce que à Paris, avec 2 mètres carrés, vous avez une salle de bain, une cuisine et presque une chambre d'enfant.
Ça sent le vécu.
Non, mais pour plaisanter. Mais sinon, non, on est parfois sur du... entre 1 et 4, 5 mètres carrés. Alors ça dépend bien sûr, à Saint-Etienne ça va être beaucoup plus, mais moi je préfère parler en pourcentage de pouvoir d'achat immobilier en plus quand on calcule en mètres carrés. Alors par exemple depuis le début de l'année on est quasiment à plus 8% à Toulouse, un peu quasiment plus 6% à Montpellier, plus 5% à Lyon et Paris quasiment plus 4%. Donc c'est quand même pas mal, ça va un peu mieux.
Plus 4% de pouvoir d'achat immobilier ou en
c'est
surface.
Ça, donc en surface achetable.
Donc si on a 100 mètres carrés à Paris, on est content, on a gagné 4 mètres carrés.
Voilà, on est passé à 104, sauf qu'en
réalité,
c'est pas ça,
ouais,
on est plutôt passé de 16,5 à 16,8, enfin, grosso modo, vous avez gagné 50 centimètres carrés à peu près. Quoi.
Voilà, et un petit bonjour à ceux qui nous écoutent en région, hein,
non, mais,
de la chance.
Par contre, Victor a raison, c'est si on regarde par rapport à 2021, là où le marché était, en surchauffe, il était vraiment au plus
parce
haut.
Parce que les taux à 1%, quoi.
Des taux à 1%, là aujourd'hui, on est à peu près à 3,8. On était à 4,10, ça c'était le top, ça c'était en fin d'année dernière. Là on est à 3,8. Mais effectivement, on était à 1% en 2021. Et donc là, on est quand même à, par exemple, là, je prends quelques villes, hein, moins 34% à Nice. de surface achetable, hein, donc de superficie hein, le mètre carré. Moins 30% à Marseille, quasiment pareil à Toulon et Strasbourg. Et les villes qui résistent, entre guillemets, le mieux, bah, c'est les villes où de toute façon c'était déjà le plus cher. Moins 13% à Paris et moins 12% à Lyon. Donc de toute façon, on est toujours assez loin de cette période-là. Donc les prix immobiliers s'ajustent, mais nous, quand on regarde nos baromètres, on a un partenariat avec BFM.
Avec Bien ici,
tous les mois. On voit qu'en tout cas, dans les annonces, hein, les prix ont plutôt tendance à repartir depuis le début de l'année.
Et puis, on n'a pas résolu le problème des primo-accédants. De toute façon, le marché dans les grandes villes, il est complètement inaccessible aux primo-accédants.
Oui, c'est devenu.
Sauf si on a hérité ou.
C'est devenu extrêmement compliqué. Alors après, ça a toujours été compliqué, mais c'est vrai que là, c'est particulièrement compliqué. Et puis surtout, quand même, en parallèle, c'est pas comme si vous pouviez trouver une location facilement dans les grandes villes.
Ouais,
hein. C'est l'enfer. Donc, c'est ça qui est vraiment très compliqué pour les primo-accédants. Mais... Et d'ailleurs, on a des chiffres de la Fondation Abbé Pierre qui montrent que de plus en plus de jeunes restent chez leurs parents.
Ne parlez pas du marché locatif, vous allez réveiller Marie.
Non, mais ça, si, c'est quand même intéressant. Mais il y a un vrai sujet quand même autour de cette perte de pouvoir d'achat immobilier. Alors, vous pouvez aller voir sur notre site web parce qu'on a récupéré les chiffres des prix de la FNAIM plus les chiffres et les moteurs de calcul du courtier vous financez pour essayer d'évaluer ce qu'on a perdu comme pouvoir d'achat immobilier et ce qu'on a regagné depuis le reflux des taux d'intérêt depuis le début de l'année. Et c'est assez intéressant de voir quand même que même si on a énormément perdu, et Jean-Louis l'a très bien dit, on a quand même gommé partiellement cette perte de pouvoir d'achat immobilier liée à la hausse des taux grâce à la baisse des prix dans certaines villes. Et on a oublié de dire quand même que des taux à 1%, c'est pas logique. Et que aujourd'hui des taux à 3,8, c'est plutôt normal, historiquement parlant. Donc là, c'est au prix de s'ajuster concrètement. Bon, on a parlé de la crise du logement. On peut parler un tout petit peu de la crise du bureau. Elle existe, la crise du bureau ?
Il y a une crise du bureau ?
Je sais pas.
J'en ai à peine entendu parler.
Je vous regarde parce que effectivement, on n'arrête pas de parler de la crise du logement et évidemment, c'est quand même la clé.
On va poser la question différemment. Où est-ce qu'on en est de la crise du bureau ?
Non, très très juste. Alors la crise du bureau, elle est très clairement là et elle est amorcée. On n'en est pas du tout encore à la fin. Et on voit qu'il y a un double impact. On peut le regarder au travers de l'angle des valorisations et les valorisations qui ont chuté de façon spectaculaire. Lorsqu'on regarde le rendement attendu pour du bureau en plein centre de Paris, prime, on est passé de 2,8% il y a deux ans à 4,25% dans le meilleur des cas.
Ce
qui est une bonne nouvelle, avec une hausse des loyers qui n'a compensé que très très partiellement cette baisse des valeurs. Et ça, c'est quand on est en plein centre de Paris. Lorsqu'on sort de Paris, alors, il y a des zones où il n'y a même plus de marché. Où on va être sur du... Quelque part, quand on regarde par le passé, avant cette hausse des taux, on pouvait voir que le spread entre
l'écart entre
le rendement, non pas le yield, l'écart entre le rendement en plein centre de Paris et en première ou deuxième couronne était très limité. On voit qu'il s'est complètement reconstitué, ce qui fait qu'à certaines zones où il n'y a même plus de prix. Donc on voit aujourd'hui qu'il y a une réalité.
Vous pensez à la Défense par exemple ?
La Défense ou la Péri-Défense. Ouais. Finalement, la Défense continue d'attirer. Alors oui, il y a quand même de la vacance, mais lorsqu'on regarde, c'est la Péri-Défense qui est le plus en risque. C'est lorsqu'on sort de la Défense et qu'il y a des zones qui structurellement ne seront plus du bureau.
Mais justement, où est-ce qu'on en est en termes de taux de vacances ?
Alors taux de vacances,
sur
on
le
est...
bureau.
Oui. Sur le bureau, on est à 8% en Ile-de-France, environ, ça dépend de situation et les analystes, mais environ 8%, mais avec une très forte disparité entre le plein centre du quartier central des affaires à Paris, où on va être sur une vacance frictionnelle. C'est frictionnel, c'est 2-3%.
Ouais.
Et certaines zones en première couronne, où on va dépasser les 20%. Donc on n'est pas au niveau des États-Unis.
Oui, c'est ce que j'allais dire. Aux États-Unis, certaines villes, certaines régions, on sait que dans la région de San Francisco,
exactement,
c'est l'hécatombe.
C'est l'hécatombe, on est entre 20 et 30% de taux de vacances moyen, exactement. Ce qui signifie qu'il y a certaines zones qui réellement ne sont plus utilisées et qui sont sinistrées.
Même à New York, hein, on est quasiment à 13,5% en 2023. Ils prévoyaient quasiment d'atterrir à 16,6% fin 2025. Ça, c'était Fitch. Donc New York, hein, c'est-à-dire l'une des villes les plus plébiscitées au monde, les plus attractives au monde. Hein.
Et peut-être, ouais, deux points là-dessus qui peuvent expliquer la différence entre la France ou l'Europe, parce que l'Europe est plus proche de la France et les États-Unis. Deux points, deux parmi d'autres. Mais le premier, c'est le fait que naturellement, le télétravail a un impact beaucoup plus drastique parce que la durée moyenne de trajet d'un travailleur entre son domicile et son bureau était beaucoup plus importante qu'en France. Et on voit bien que dès qu'on dépasse les 45 minutes de trajet dans un sens, et ben en fait, dès qu'on a une capacité à télétravailler, on va chercher à télétravailler infiniment plus.
En clair, il y a plus de télétravail aux États-Unis qu'en France.
Plus de télétravail, sachant qu'en plus, il y a eu une approche du risque sanitaire bien plus extrême aux États-Unis, où on a considéré que les collègues ne devaient plus se voir. Il y a même une interdiction à ce que les collègues dans beaucoup de grands groupes, y compris dans leur succursale européenne, puissent se rencontrer rencontrer, il y a une interdiction qu'ils se rencontrent même en dehors du bureau. Donc on a été beaucoup plus extrême, beaucoup plus vite. Et de l'autre côté, et ça c'est une étude McKinsey l'été dernier qui le disait de façon très juste, il y a beaucoup moins de porosité entre les zones bureaux et les zones résidentielles. Ce qui, évidemment, a un impact direct sur le fait que les durées de transport, les durées de trajet sont même plus importantes. Et les villes qui résisteront théoriquement le plus sont les villes les plus imbriquées avec du rési et du bureau, ce qui est le cas de Paris.
Et je voudrais continuer à faire le lien entre le résidentiel et le bureau. D'abord, première question sur cette crise du bureau. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Est-ce que c'est essentiellement la hausse des taux ou c'est surtout le télétravail, le Covid? C'est quoi le sujet pour le bureau?
C'est un peu une tempête parfaite, pas une perfect storm, mais une tempête parfaite où on a et une crise des valorisations avec cette hausse des taux qui a fait fuir un certain nombre d'investisseurs et surtout la crise des usages où on voit bien que le consensus de marché est de dire que structurellement il y aura besoin de moins de bureaux en Île-de-France. La question est de savoir si on sera à 15, 20 ou 25%, mais ce qui naturellement contribue à faire fuir les investisseurs.
Qu'est-ce qu'on en fait des bureaux? La transformation de bureaux en logement, c'est le serpent de mer, hein. On en parle, on le fait, on sait que ça coûte très cher.
Jean-Louis, il en a fait l'idéal. Des papiers sur la transformation de bureaux en logement.
Non, mais si vous voulez, c'est un peu la recette facile, miracle, parce que comme ça, on n'utilise pas de foncier, tout le monde est content, puis tout le monde déteste les bureaux vides. Hein. Vous baladez dans Paris, vous voyez des bureaux vides, ça vous agace.
Quand on va à la Défense, alors là, c'est pas de la transformation, mais il y a des zones d'habitat sur le parvis de la Défense.
Déjà,
d'habiter au milieu des tours de bureaux.
Même si on regarde pas les quartiers. Disons qu'on est quand même dans un bon quartier central, etc. Il y a d'énormes problèmes, c'est-à-dire que rien que, par exemple, les sanitaires. Comment vous construisez des sanitaires dans du résidentiel par rapport à du bureau? Du bureau, vous avez un endroit pour chaque étage, par exemple.
C'est compliqué, ou deux. Le résidentiel, de partager les sanitaires avec les voisins, ça s'appelle le camping.
Voilà, sinon, vous refaites comme, comme à l'ancienne époque, dans l'Haussmannien, vous avez les toilettes sur le palier. Mais sinon, en vrai, il faut tout refaire, il faut tout casser, il faut absolument... tout refaire. Ensuite, souvent, c'est très vitré. Donc, vous avez quand même besoin, pour votre intimité, de changer la façade, etc.
Et puis, il y a l'accès.
En fait, il faut tout restructurer. Donc, en fait, ça a un coût qui est monstrueux. Donc, même ce qu'on dit souvent, c'est que parfois, il vaut mieux tout raser.
Démolir pour reconstruire.
En fait, ça vous coûte moins cher que de réhabiliter. Et puis après, en fait, c'est vraiment un pouillème des choses. Hein. Là, on parle... Alors, c'était dans... Parce qu'effectivement, le Sénat a voté cette semaine une loi qui permet de faciliter la transformation de locaux commerciaux en logements. Alors, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi dans l'absolu. Mais donc, on parle d'à peu près 4,5-5 millions de mètres carrés de bureaux vides en Île-de-France. Si on convertit tout, on arrive... Alors ça, c'est les calcul des sénateurs, on arrive à 70 000 logements potentiels. Bon, c'est rien. Et puis, en fait, si vous faites ça, vous allez devoir reconstruire du bureau assez vite parce qu'en fait, c'est normal qu'il y ait un petit peu de bureau vide parce que c'est ce qu'on appelle la friction. C'est la vacance frictionnelle. C'est un petit peu nécessaire. Donc, en fait, le vivier en fait, de logement est assez faible. Ça a un coût qui est énorme. Donc ça peut être une solution ponctuelle de temps à autre. C'est bien de l'encourager. Par contre, c'est pas du tout une solution structurelle.
C'est pas une fin en soi et c'est pas ce qui va révolutionner la face du monde. Victor, c'est quoi? C'est peanuts, en fait.
Très aligné avec Jean-Louis. Alors je pense que déjà, toutes les zones ne peuvent pas s'y prêter. Est-ce qu'on a envie de créer un immeuble d'habitation juste à côté de la Défense?
Ouais, c'est ça le sujet.
Ça, c'est un vrai point, avec des capex qui sont colossaux. Très aligné aussi. Le seul point sur lequel je serais peut-être en désaccord, c'est le fait de dire que tôt ou tard, il faudra recréer du bureau. Alors peut-être, mais lorsqu'on retourne à cette étude McKinsey, elle, ce qu'elle dit, c'est qu'elle prend la temporalité 2019-2030 et elle considère, dans son scénario de base, c'est pas le scénario le plus pessimiste, mais qu'il y aura une baisse nette de la demande de bureau, du besoin de bureau, entre 2019 et 2030, de l'ordre de 15%. À cause des nouvelles habitudes télétravail.
Mais ça veut
dire que si on y croit, on a peut-être le bon stock.
Mais après, on voit quand même qu'aux États-Unis, ça recule pas mal. Hein, sur les... Alors, Elon Musk, c'est vraiment l'exemple extrême où lui, il veut absolument zéro télétravail dans ses entreprises. Alors, c'est un petit peu extrémiste, mais c'est vrai qu'y compris dans la Silicon Valley, les gens reviennent un peu hein, sur le 100% télétravail. Maintenant, ils disent non, quand même, si vous pouvez revenir 2-3 jours par semaine, c'est bien.
Mais on va se calmer, il n'y a que 40% des postes qui sont télétravaillables, guillemets. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est officiel.
On a essayé avec Stéphane de pouvoir bosser de chez nous, mais ils ne veulent pas.
On a essayé de bosser tout court.
Oui, mais c'est là qu'il y a aussi une deuxième prise de conscience, c'est qu'il y a prise de conscience du fait qu'il y a une vacance de niveau 1 structurelle qui va augmenter parce qu'il a besoin de moins de bureaux, mais on pourra en parler plus tard, mais ce que les entreprises utilisatrices réalisent aussi depuis quelques mois, mais c'est assez court terme, c'est que la vacance de niveau 2, c'est-à-dire quelle est l'occupation réelle de mes bureaux, est elle dramatique. Ce qui fait que quand bien même la vacance du niveau 1 resterait relativement faible, si les entreprises se mettent à essayer d'optimiser un tant soit peu leur deuxième poste de coût du PNL de leur compte de résultat qui est le bureau, ça fera très mal.
Vous savez qu'il y a un monsieur qui nous écrit régulièrement, Daniel Depoli, il est très connu dans la profession et qui traque tous les anglicismes.
Ouais, mais il a bien raison.
Et je vois que Marie...
Je suis dans la team Daniel, moi.
Je vais essayer de faire très attention.
Juste avant qu'on arrive sur la pause, du coup, vu tout ce qu'on a dit, bon, je vais pas investir dans le bureau pour le mettre à la location, là, c'est complètement idiot.
En tant que privé ?
Ouais.
Alors, moi, ce que je dirais, c'est que en tant que privé, on peut très bien investir sur du bureau dans des zones qui sont des zones très sûres en termes d'occupation, mais que désormais, ma conviction, c'est que plus on va s'éloigner du centre, du cadre central des affaires, plus le fait de faire du bureau va être un produit professionnel qui nécessitera la convergence entre le propriétaire et l'opérateur, et que si on est simplement propriétaire, en plus de ça, non professionnel, mais non opérateur de flexibilité, sera compliqué.
Quel est le rendement moyen sur ce type d'investissement, sur le bureau ?
Alors, sur le bureau, on va être en plein centre de Paris, on va être sur du 4,5% si vous êtes vraiment sur un actif extrêmement qualitatif. Si vous sortez du périphérique, vous pouvez largement dépasser les 7, voire atteindre les 10%.
Mais encore une fois, quand il y a des énormes rendements, c'est qu'il y a énormément de vacances.
Naturellement, ce fameux couple risque-retour. Et cette énorme vacance, le problème, c'est que de plus en plus d'utilisateurs demandent, il y a maintenant 42% des utilisateurs, selon l'étude CBRE l'année dernière aussi, qui souhaitent maintenant que dans leur beau, il y ait une capacité à ne payer que les surfaces qu'ils utilisent vraiment. C'est-à-dire en fait de la flexibilité. Ben est-ce qu'un privé sera capable de le proposer? J'en suis pas sûr.
Ouais. Ah non, mais moi, c'est un vrai sujet sur comment on occupe et quels sont nos usages de nos bureaux, sachant que pour les entreprises, on le rappelle, l'immobilier, ça reste le premier coût derrière les salaires, évidemment, mais c'est le premier coût pour une entreprise. Donc, ça reste quand même des vrais sujets. Et du coup, je pense que ça sera l'occasion, en deuxième partie d'émission, d'aborder ce que vous proposez sur cette flexibilité que recherchent aujourd'hui les entreprises ou les utilisateurs de bureaux aujourd'hui.
Et puis on parlera du coworking. Alors je ne sais pas comment on dit en français.
Bureau partagé.
Du travail ensemble.
Travail ensemble.
Certains
vivre ensemble au travail.
Non, du bureau flexible.
Ouais, certains.
Moi, j'ai bien dit.
Se sont brûlés les doigts sur ce marché. Mmh. On en parlera après la pause. On parlera des nouveaux usages du bureau. On continuera cette discussion. Restez avec nous.